VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, excellent début de journée en notre compagnie sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Michel Joseph. Bonjour Michel.
Bonjour Nicolas.
À la une de notre émission ce matin.
Moïse Katumbi désigné candidat à la présidentielle par le G7 à Kinshasa.
Nous sommes déjà 7 partis politiques de l'opposition qui venons de choisir M. Katumbi. Il y a d'autres peut-être qui vont nous suivre.
Déjà 7 morts en Guinée suite à la réapparition du virus Ebola.
Au Tchad, la grève générale se poursuit pour obtenir la libération des leaders de la société civile.
La réalité est là, vous pouvez faire un petit tour là dans la ville, comme je le disais tantôt, vous allez remarquer des visus, vous allez remarquer vous-même qu'effectivement, la grève est largement suivie.
Et début ce jeudi à Washington du sommet sur la sûreté nucléaire autour du président Barack Obama. Et comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Éco et le journal des sports. L'Uruguay veut organiser la Coupe du Monde 2030, c'est dans longtemps, mais tout de suite sur VOA Afrique, le journal.
La bataille présidentielle est plus que jamais lancée en République démocratique du Congo. Moïse Katumbi sera le candidat du G7 à la prochaine présidentielle. L'ancien gouverneur du Katanga a été désigné par cette plateforme de l'opposition au terme de son conclave tenu à Kinshasa. On écoute Olivier Kamitatou, l'un des membres du présidium du G7, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Parce que nous considérons qu'il faut une véritable révolution des mentalités, qu'il faut un leadership exemplaire dans notre pays, un leadership qui soit courageux, qui soit dynamique, qui soit rassembleur, et parce que nous avons vu toutes ces qualités dans Moïse Katumbi. Et en conséquence, nous lui demandons d'être candidat, de porter notre programme commun du G7 pour l'avenir du Congo.
Olivier Kamitatou du G7, on en reparlera de cette désignation dans la deuxième partie de notre émission avec en invité Gabriel Kyungu-Wa Kuanza. Sachez aussi que les Nations Unies ont reconduit pour un an le mandat de la MONUSCO en RDC. La résolution déposée par la France donne deux priorités à la MONUSCO, la protection des civils dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et le soutien à la tenue d'élections crédibles, pacifiques et démocratiques. La résolution ne change pas l'effectif actuel qui reste fixé à plus de 21 000 soldats et policiers alors que Kinshasa ça insiste sur un retrait rapide de la MONUSCO.
Retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique. Le nouveau président, Faustin Archange Touadéra, a été officiellement investi hier au stade Barthélémy Boganda. La cérémonie s'était déroulée en présence de deux chefs d'État africains, le Congolais Denis Sassou Nguesso et l'Équato-Guinéen Teodoro Obiang Nguema. Correspondance de Freeman Sipila depuis Bangui.
Moi, Faustin Archange Touadéra, je jure devant Dieu et devant la nation, d'observer scrupuleusement la Constitution.
Se voulant rassembleur, le nouveau président appelle les Centrafricains à la réconciliation et à la cohésion sociale pour développer leur pays. Il estime que la priorité des priorités est la sécurité. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Centrafrique encore, Paris annonce la fin de l'opération militaire française Sangaris cette année. Le relais sera passé à l'ONU, appuyé par l'Union européenne pour le désarmement des milices et la formation des forces armées. C'est ce qu'a fait savoir Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, lors de l'investiture du président Touadéra.
Présidentielle au Niger, la Cour constitutionnelle a validé les résultats du second tour du 20 mars. La réélection du président sortant Mahamadou Issoufou avec 92,51% des voix est donc confirmée. L'opposant Ama Amadou a recueilli 7,49% des voix.
Et puis on rappelle que l'opposition affirme qu'elle ne reconnaîtra pas M. Issoufou comme président à partir de vendredi, date de la fin de son premier mandat.
Fin de la cavale pour le cerveau des attaques terroristes de 2015 dans le sud du Mali. Souleymane Keïta a été arrêté à la frontière avec la Mauritanie par les forces spéciales de la DGSE malienne. Avant lui, certains de ses lieutenants avaient été arrêtés en juin 2015 après les attaques de Fakola et Misseni à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les détails avec le correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
L'homme le plus recherché au Mali, après les attaques terroristes et djihadistes de Fakola et Misseni à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, a été arrêté. Il s'agit de Souleymane Keïta qui était en cabale depuis le 19 février 2015. Il est le numéro 1 de la Katiba Ibn Walid ou Ansardine du Sud. En juin 2015, deux de ses lieutenants avaient été arrêtés après les attaques de Fakola par la force spéciale malienne dans la forêt de Sama. Parmi eux, il y avait l'informaticien du groupe qui détenait beaucoup de téléphones pour portable. Souleymane Keïta était recherché. C'est le mardi 29 mars 2016 qu'il a été arrêté par une unité de la force spéciale malienne dans la forêt de Ouagadou, à la frontière Mali-Mauritanie. Il tentait de rejoindre Iyad Agali, son patron, dans le nord du Mali. Souleymane Keïta, le patron de la Katiba Ibn Walid, et ses hommes sont à la base des attaques terroristes à Bamako et dans le sud du Mali. Il avait séjourné en Guinée-Conakry, Sierra Leone et en Gambie avant son arrestation à Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et la kamikaze arrêtée vendredi dans l'extrême nord du Cameroun ne fait pas partie des lycéennes de Chibok enlevées en 2014 par Boko Haram au Nigeria. C'est la fondation Murtala Mohamed chargée de vérifier l'identité de la jeune fille par la présidence nigériane qui a déclaré que trois représentants des parents des lycéennes de Chibok ont examiné des photos d'elle et ont assuré qu'elle ne correspond pas à la description d'aucune des filles disparues de Chibok. Je vous rappelle que deux kamikazes avaient été arrêtées vendredi au Cameroun dans la région de l'extrême nord frontalière du Nigeria. Elles portaient chacune une ceinture de 12 kilos d'explosifs.
En Guinée, le virus Ebola a fait déjà 7 morts depuis sa réapparition dans le pays. Des détails avec Maëlys Ego.
Deux femmes de la même famille sont décédées la semaine dernière à Koro-Para, en Guinée forestière, ce qui porte à 7 le nombre de décès dus au virus Ebola. Ces nouveaux cas sont les premiers recensés dans le pays depuis que la fin de l'épidémie a été proclamée le 29 décembre. À Koro-Para, quelques 900 personnes susceptibles d'avoir été contaminées ont été mises en quarantaine. 65 autres ont été recensées dans la préfecture de Macenta. L'OMS fait état de 171 personnes considérées à haut risque, dont 10 qui n'ont pas encore été retrouvées. Pourtant, le 17 mars, l'OMS avait annoncé l'arrêt de toutes les chaînes de transmission initiales de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. L'OMS a aussi annoncé mardi que l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest ne constituait plus une urgence de santé publique de portée internationale.
Entretien hier à Washington entre le secrétaire d'État John Kerry et une délégation ministérielle nigériane. La lutte contre les islamistes de Boko Haram était l'un des principaux sujets de discussion. Le point avec Félix Yepa-Sizembo.
Le chef de la diplomatie américaine a réitéré le soutien de Washington aux autorités nigérianes, dénonçant le lavage de cerveau auquel se livrent les islamistes nigérians pour persuader les jeunes gens et jeunes filles, et même des fillettes, de se faire exposer dans les marchés. Cela doit cesser, a-t-il martelé. Selon le secrétaire d'État John Kerry, le Nigeria, sous le président Muhammad Buhari, a réalisé d'importants gains dans la lutte contre ce groupe terroriste. Boko Haram n'en demeure pas moins une sérieuse menace régionale, a souligné le chef de la diplomatie américaine. Dans 2 à 3 mois, l'armée nigériane réussira à chasser Boko Haram de son bastion de la forêt de Sambisa. Son collègue des affaires étrangères, Geoffrey Onyama, a pour sa part remercié les États-Unis et la communauté internationale pour un soutien décisif qui a permis de pousser Boko Haram dans ses derniers retranchements.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, ouverture ce jeudi du sommet sur la sûreté nucléaire à Washington. La menace atomique posée par la Corée du Nord va sans doute dominer les débats pour ce sommet, présidé par Barack Obama. Le président américain retrouvera en tête à tête son homologue chinois Xi Jinping et ses alliés japonais et sud-coréens. Le scénario catastrophe d'un attentat terroriste nucléaire au moyen d'une bombe sale entre les mains des djihadistes de l'État islamique pèsera aussi sur les travaux d'une cinquantaine de dignitaires étrangers réunis pendant 2 jours autour de M. Obama.
En Libye, à peine arrivé à Tripoli, le chef du gouvernement d'Union nationale, soutenu par l'ONU et sommé par les autorités non reconnues de partir. Le point avec John Linden.
Fayez al-Sarraj est arrivé en Tunisie mercredi avec 6 membres du conseil présidentiel. Il a été accueilli à la base navale de Tripoli par des hauts gradés de la marine et des responsables locaux dont Aref el-Khoja, ministre de l'Intérieur du gouvernement de Far Libya. Son arrivée a été suivie par des tirs intermittents dans la soirée. Les artères principales de Tripoli ont été bloquées par des membres de groupes armés. Ceux qui sont arrivés illégalement et clandestinement doivent se rendre ou revenir sur leurs pas, a déclaré dans une allocution télévisée Khalifa El Gouel, chef du gouvernement non reconnu, en dénonçant comme illégal le gouvernement de Sarraj. L'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, s'est félicité de l'arrivée de Fayez al-Sarraj, parlant d'une étape importante dans la transition démocratique en Libye. Il a appelé à un transfert de pouvoir pacifique.
Plus de 100 travailleurs migrants qui aident à construire un des stades du Mondial 2022 de football au Qatar ont souffert d'abus flagrants et systématiques, y compris de travail forcé, affirme un rapport d'Amnesty International.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Tout de suite, la Minute Éco, présentée ce matin par Jean-Roger Billon.
Hausse du chômage en Tunisie, les jeunes diplômés sont les plus touchés. En une année, les chiffres ont doublé et ont atteint aujourd'hui 31,2%. Le chômage n'avait jamais atteint cette ampleur depuis la révolution de 2011. Le premier ministre Habib Essid a promis des mesures exceptionnelles pour réduire le taux de chômage de façon continue, en exploitant toutes les opportunités et en orientant les demandeurs d'emploi vers des métiers d'avenir et prometteurs. Le président tanzanien John Magufuli s'attaque aux inégalités salariales au sein de la fonction publique. S'exprimant à partir de sa ville natale, M. Magufuli a révélé la mise en place d'une commission ad hoc pour rétablir l'équilibre, c'est-à-dire réduire les salaires exorbitants et augmenter les moins payés. Une autre anomalie concerne le nombre de fonctionnaires fantômes. Plus de 1680 personnes coûtent chaque mois à l'État tanzanien 1,7 milliard de dollars. Une seule personne a reçu 17 salaires en un seul coup, selon une enquête commanditée par le président Magufuli. Et les vieux démons de la dette ressurgissent en Afrique. Sept pays se trouvent en risque de surendettement élevé au cours de 2016. Il s'agit du Burundi, du Cameroun, du Ghana, de la Mauritanie, de la République centrafricaine, de Sao Tomé et Principe et du Tchad. Pourtant, les sept font partie des bénéficiaires de l'allègement massif de la dette entre 2000 et 2014. Mais l'effondrement brutal des cours des matières premières, le ralentissement de leurs économies et aussi la chute des monnaies locales ont fait ressurgir ces dernières années le spectre de la dette en Afrique.
Merci Jean Rouget, on passe à présent au journal des sports. On commence par du football, quelques résultats des championnats sur le continent. La 16e journée au Sénégal disputée ce mercredi. Le Stade de Mbour et l'AS Douane ont fait match nul un but partout. Belle victoire à l'extérieur, 2-0 du Casa Sport chez l'Olympique de Ngor. Enfin, les Djambars se sont imposés 2-0 contre Niaritali. Match en retard également de la 9e journée du championnat de Côte d'Ivoire. Deux équipes du milieu de tableau, l'ASEC Mimosa qui a battu le CW San Pedro 2-1. Et puis match en retard de la 7e journée du championnat du Cameroun, le Coton Sport de Garoua n'a pu faire que match nul à domicile contre le Young Sport Academy, un but partout. Enfin, l'USM Loum continue son beau parcours dans ce championnat en battant l'Union de Douala 1-0. On reste au Cameroun pour parler des Lions indomptables. Il n'y a pas le feu entre le capitaine Stéphane Bia et Vincent Aboubakar. En tout cas, c'est ce qu'affirme Vincent De Paul Atangana, le responsable de la communication des Lions indomptables. Pour lui, tout cela ne révèle que de la rumeur et je cite « Suite à des informations qui circulent en ce moment au Cameroun et qui font état d'un échange houleux entre Stéphane Bia et Vincent Aboubakar après le match contre l'Afrique du Sud à Limbé, je tiens à porter à l'attention de l'opinion publique qu'il n'y a jamais eu d'altercation entre les deux coéquipiers dans les vestiaires. » Fin de citation. On parle à présent de la Coupe du Monde 2030, c'est dans longtemps. Eh bien, le président uruguayen fait part de son désir d'organiser l'épreuve conjointement avec l'Argentine. Le président de l'Uruguay, Tabaré Vázquez, a exposé officiellement au président de la FIFA, Gianni Infantino, son souhait d'organiser conjointement avec l'Argentine le Mondial 2030, un siècle après la première Coupe du Monde de l'histoire qui s'est tenue, souvenez-vous, en Uruguay. Le Mondial 2002 au Japon et en Corée du Sud a été la dernière Coupe du Monde à avoir été organisée conjointement par deux pays. Les Jeux Olympiques 2016, c'est cet été, la justice brésilienne bloque un financement public pour fraude. Et il concerne les travaux du complexe Deodoro qui accueillera 11 épreuves des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en août prochain, sa construction ayant été entachée d'accusations de corruption. Un tribunal de Rio a suspendu le paiement d'environ 35 millions de dollars destinés à deux entreprises du BTP. La mairie de Rio a indiqué que si l'enquête apporte des preuves de paiement irrégulier, les contrats de ces entreprises seraient annulés. Tennis Masters de Miami, Victoria Azarenka chez les dames est la première qualifiée pour les demi-finales. La Biélorusse a dominé la Britannique Johanna Konta en 1h38. Le score 6-4-6-2. Chez les hommes, le Belge David Goffin a atteint les demi-finales en battant le Français Gilles Simon 3-6, 6-2, 6-1. Au prochain tour, le Belge jouera contre le Serbe Novak Djokovic ou le Tchèque Tomas Berdych qui s'affrontent ce jeudi. Enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière. Toronto domine Atlanta 105-97. Denver s'impose à Memphis 109-105. Milwaukee plus fort que Phoenix 105-94. Et San Antonio qui domine la Nouvelle-Orléans 100-92. C'est tout pour ce journal des sports sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Partons pour Kinshasa où les choses s'accélèrent en vue de la présidentielle. C'est désormais officiel, Moïse Katumbi est proposé comme candidat du G7 pour la présidentielle. Le G7 est composé notamment d'anciens frondeurs de la majorité présidentielle au pouvoir passé à l'opposition. La plateforme des leaders de ces sept partis politiques a donc officiellement fait choix lors d'un conclave à Kinshasa. Eddie Isango a joint l'un des sept leaders, Gabriel Kyungua Kuanza.
Nous venons de choisir M. Katumbi Samuel au prochain élection présidentielle comme notre candidat.
Est-ce que vous pensez que les choix que vous avez portés sur M. Moïse Katumbi sera bien les choix de toute l'opposition? Parce que vous parliez il y a quelques temps d'une candidature unique.
Nous sommes déjà sept partis politiques de l'opposition qui venons de choisir M. Katumbi. Il y a d'autres peut-être qui vont nous suivre, mais sinon les contacts vont continuer parce que notre ambition, notre et d'avoir derrière lui toute l'opposition si possible.
Il y a quelques temps, M. Moïse Katumbi lui-même a parlé des primaires pour choisir un candidat unique de l'opposition. Mais on sait qu'il y a d'autres ambitions. Il y a par exemple M. Vital Kamerhe, il y a Etienne Tshisekedi, il y a Matungulu et autres. Comment allez-vous vous y prendre?
Nous avons opté pour le dialogue à notre niveau avec tous les amis de l'opposition.
Certains pensent déjà à une transition si vraiment et c'était impossible d'organiser des élections d'ici la fin de l'année. Dans tel cas de figure, comment entrevoyez-vous les choses?
Le mandat de M. Kabila prend fin et la Constitution prévoit son remplacement. Le président du Sénat devra faire notre chose de diriger le pays par intérim jusqu'au moment où on va organiser les élections.
Certains remettent en cause aussi même le mandat du président du Sénat parce qu'il a ou il aura déjà terminer son mandat. Il n'aura pas de légitimité non plus.
À ce moment-là, il y a un mécanisme constitutionnel qui prévoit des pouvoirs à ces lacunes-là, à ces trous-là, à ces vides-là.
Et finalement, irez-vous au dialogue parce que les présidents...
Nous sommes prêts à participer à tout dialogue, mais sans M. Kabila. Tant que nous savons que M. Kabila cherche à se maintenir le pouvoir par tous les moyens, nous venons de vivre des scandales autour des élections provinciales.
Gabriel Kyungua Kuanza, président de l'Assemblée provinciale de l'ex-Katanga.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Burundi, un rapport de la Commission nationale indépendante des droits humains recense la mort de 381 personnes depuis avril 2015 dans le pays. La Commission dénombre aussi des cas de torture et d'emprisonnement illégal. Annonce polémique aussi puisque cette même commission affirme que les manifestations d'avril dernier étaient illégales. On rappelle que les manifestants dénonçaient le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. On retrouve le reportage du correspondant de VOA Afrique à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans une conférence de presse ce mercredi, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi est revenu sur les atteintes des droits de l'homme observées dans les quatre coins du Burundi profond, Jean-Baptiste Baribonekeza.
La CNIDH a pu enregistrer 381 personnes qui ont été tuées entre le mois d'avril et le mois de décembre 2015. Et nous avons également relevé 439 cas de personnes qui ont été arrêtées ou détenues sans titre. Et nous avons aussi relevé au moins 27 cas d'allégations de torture sur des personnes, ainsi que 19 cas de personnes qui ont été victimes soit d'enlèvement ou de disparition, ainsi que d'autres actes de violation relativement moins graves.
Le président de la Commission nationale des droits de l'homme au Burundi reconnaît que des actes de torture ont été perpétrés par ces agents des services de renseignement, mais qu'il appartient à la justice d'enquêter pour qualifier ces abus.
On ne peut qualifier de torture que des actes qui ont été commis par des agents de l'État. Maintenant, la CNIDH a expliqué dans son rapport les circonstances et les autres d'autres informations relatives des allégations. Et il appartient maintenant au ministère de la Justice, particulièrement au parquet général, de se saisir de ces cas pour enquêter, vérifier, qualifier en particulier et déterminer exactement qui sont les auteurs.
Plus de 1050 personnes ont été libérées avec le concours de la Commission des droits de l'homme, comme l'affirme son président Jean-Baptiste Baribonokieza.
Au cours de l'année 2015, la CNIDH a pu obtenir la libération d'environ 1058 personnes. Parmi ces personnes, on a pu relever 84 femmes et 78 enfants, y compris les 51 enfants qui étaient arrêtés lors de l'attaque de Tibitoke du mois de juillet dernier.
Le président de la commission a rappelé que les manifestations des jeunes contre le troisième mandat illégal, selon les membres de la société civile et des droits de l'homme, ainsi que des partis politiques de l'opposition, n'ont pas été tenues en considération. Mais Jean-Baptiste Baribonekeza reconnaît que tous ceux qui ont tué des innocents ne devaient pas siéger au moment du dialogue inclusif entre le gouvernement burundais et l'opposition. Christophe Kurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le recrutement des jeunes par des groupes djihadistes. En Afrique, plus de 40 millions de jeunes sont des recrues potentielles de terroristes, d'après l'ONU. Pourquoi des jeunes se laissent-ils tenter par le terrorisme? Quelles sont les armes de recrutement de ces mouvements radicaux? Comment contrer un tel recrutement? Washington Forum, ce jeudi à 19h.
Au Tchad, la grève générale se poursuit. Les organisations syndicales comptent maintenir la pression sur le gouvernement pour obtenir la libération de 4 responsables de la société civile, dont le secrétaire général de l'UST, l'Union des syndicats du Tchad. Voici le reportage de Bagassi Koura, l'envoyé spécial de VOA Afrique à N'Djamena.
Après le premier jour de grève qui a été bien suivi, les autorités semblent avoir pris quelques mesures pour faire face au débrayage dans la fonction publique. À l'hôpital mère-enfant de N'Djamena, certains agents ont été réquisitionnés. Selon la direction de ce centre, les responsables de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine assurent, eux, que tout se déroule normalement. Moussa Djibril Kourbat est surveillant général de l'hôpital.
Ici, à l'hôpital de la Liberté, nous, on travaille. Travaille 24 heures sur 24. Si tout malade arrive, on le prend en charge.
La grève déclenchée ce mardi affecte sérieusement non seulement les hôpitaux, mais aussi plusieurs services publics à travers le pays. Mais pour le gouvernement, ce débrayage n'est pas bien suivi. Docteur Hamid Diabar est le secrétaire général du ministère de la Santé.
L'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, le constat, forte influence, tous les services sont fonctionnels, quelques absences constatées. Au niveau de l'hôpital mère-enfant, c'est vrai que l'affluence est moindre que celle de l'hôpital l'Amitié Tchad-Chine, mais tous les services sont fonctionnels. Quelques absences ont été constatées aussi, il faut le dire. Au niveau de l'hôpital général de référence nationale, l'affluence n'est pas comme nous le voulons, mais tous nos services sont fonctionnels et on a constaté quelques absences.
Bien ça, ça c'est eux qui le disent, hein. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Hein, mais...
Docteur Albissati Saleh Alazam est le porte-parole du mouvement Ça suffit et secrétaire général par intérim de l'UST.
La réalité est là, vous pouvez faire un petit tour là, dans la ville, comme je le disais tantôt, et vous allez remarquer des visus, hein. Vous allez remarquer vous-même qu'effectivement la grève est largement suivie. Elle est largement suivie et sera suivie jusqu'à l'obtention totale de nos revendications. Qui sont, entre autres, je disais, la libération sans condition de nos camarades qui sont détenus dans la prison du régime.
En principe, ce jeudi, les leaders de la société civile arrêtés devront comparaître devant un juge. Bagassi Koura, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Début ce jeudi à Washington d'un sommet sur le nucléaire. Plus de 50 pays discuteront des menaces et des moyens de les prévenir. Une session spéciale sera consacrée aux efforts pour empêcher les groupes terroristes d'entrer en possession de matériel nucléaire. Lionel Gaïma.
Les attaques de Bruxelles viennent de rappeler combien de groupes comme l'État islamique peuvent être dangereux. Cette menace fera l'objet d'une attention particulière pendant ce sommet à Washington. Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche.
It'll be focused on the broader threat.
Il sera centré sur la menace globale, mais évidemment, l'accès du groupe État islamique à du matériel nucléaire est quelque chose que nous devons éviter. Ce sera certainement un point de discussion. Depuis les attaques de Bruxelles, la Belgique a placé des soldats autour des installations nucléaires. Le Pakistan, qui vient de subir une attaque meurtrière à Lahore, est une puissance nucléaire, tout comme la Corée du Nord, qui, malgré son isolation, annonce régulièrement des tests nucléaires pour faire peur à ses voisins. Aux précédentes rencontres, les leaders avaient examiné comment baisser l'utilisation de l'uranium enrichi, protéger les matériaux vulnérables et éviter la contrebande du nucléaire et le terrorisme. Victor Cha s'occupe de la Corée au Centre d'études stratégiques. Ces sommets ont heureusement créé un environnement international qui renforce les normes et pratiques en matière de sécurité et d'opération. Cependant, beaucoup de questions sont toujours sans réponse. Sharon Squassoni du programme de prévention de la prolifération nucléaire au Centre d'études stratégiques.
L'objectif global était de sécuriser les matériaux nucléaires les plus vulnérables en 4 ans. Je pense, sans risque de me tromper, qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais je ne pense pas que nous ayons atteint cet objectif.
La question est d'autant plus épineuse que la plupart de ces matériaux, dits vulnérables, sont dans des stocks militaires. La Russie a refusé de faire le déplacement, disant que ces sommets ont déjà fait leur temps. C'est le dernier sommet pour Barack Obama, qui a son second et dernier mandat. Quelle sera la suite lorsque son successeur prendra ses fonctions en janvier prochain ? Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. J'espère que le prochain président comprendra que sécuriser des matériaux nucléaires vulnérables à travers le monde est une priorité en matière de sécurité nationale des États-Unis. Pour la Maison-Blanche, un des objectifs de ce sommet sera aussi de renforcer les organisations internationales pour qu'elles continuent de travailler sur la sécurité nucléaire dans le monde.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les constructeurs automobiles s'inspirent de plus en plus des smartphones et de leurs fonctionnalités. Résultat, des véhicules ordinaires sont transformés en voitures intelligentes, comme on l'a vu récemment au salon de l'automobile de New York. Timothée Donangmaï.
Nous passons beaucoup de temps avec nos appareils mobiles ces jours-ci. Ayant pris note, les constructeurs automobiles ont commencé à déployer des voitures connectées dans lesquelles presque tout peut être contrôlé à partir du téléphone portable. Jim Boxkowski est directeur des systèmes électroniques chez Ford. Nous aimons tous ces types d'expériences dans lesquelles vous pressez un bouton et tout est pris en charge pour vous. Plus besoin de tourner plusieurs boutons ici et là. Ford a récemment introduit FraudPass, une plateforme mobile qui permet à un automobiliste de trouver et de payer pour une place de stationnement. Stuart Foley, responsable de communication chez Buick. Cette voiture est à Détroit, mais je pourrais la démarrer à partir d'ici à New York. Ou bien supposons que j'en ai l'unique clé et ma femme à Détroit veut y avoir accès, eh bien je peux la déverrouiller pour elle à partir d'ici. Cette fonctionnalité exploite la connectivité 4G de la voiture et jusqu'à 7 appareils mobiles peuvent s'y connecter en même temps, explique Rob Patterson, responsable marketing de Buick. C'est une nouvelle expérience qui impose une interaction entre l'automobiliste et son véhicule, souligne de son côté Jim Boxkowski de Ford. Il est important de fournir des informations personnelles pour créer cette expérience individualisée, personnalisée, et ce sera certainement l'option pour les clients. La prochaine étape, c'est bien évidemment la voiture autonome qui circule toute seule sans assistance d'un chauffeur. La compagnie américaine Google y travaille déjà depuis 7 ans. Elle a obtenu la permission de faire circuler des modèles dans un certain nombre d'États américains.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Maï Roger, que vous retrouvez sur notre page Facebook VOA Afrique pour le live, la vidéo. Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph, Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve sur notre page Facebook et notre site internet voaafrique.com.